L'aime. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion avec Pauline Huon, qui est docteur en histoire, qui s'est intéressée dans sa thèse, quelle bonne idée, au corps durant l'Antiquité romaine. Ses perceptions, les rituels associés aux différentes étapes de la vie humaine des Romaines et Romains. La période est vaste, du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5e après, à peu près. Nous savons aussi que les sources concernent plus facilement les milieux les plus aisés, les riches citoyens romains, si on veut. Ceci posé, nous avons commencé au berceau, penché sur les nouveau-nés de la naissance à l'âge des premiers pas. Nous allons continuer à pousser et aujourd'hui on passe au corps en mutation. Les corps qui quittent l'enfance et entrent dans l'âge adulte, nous dirions l'adolescence. Bonjour Pauline Huon.
Bonjour.
L'adolescence, alors déjà nous au 21e siècle, ça nous paraît une période floue. Est-ce que dans l'Antiquité romaine c'était plus clair?
Alors pas du tout, parce qu'en fait il n'y a pas d'adolescence dans l'Antiquité. Alors en tout cas pas d'adolescence telle qu'on l'entend nous aujourd'hui. Puisque les Romains, les Romaines passaient directement en fait, de l'enfance à l'âge adulte. Finalement, quand on regarde les termes, on a un terme de adolescens, qu'on pourrait traduire nous par adolescent, mais il sert à désigner les jeunes hommes, surtout d'une trentaine d'années. Et quand on regarde les différentes phases de la vie humaine, qui ont été théorisées par plusieurs auteurs, on n'a aucune phase de 14 à 25 ans, entre guillemets. Et donc finalement, on se rend compte qu'on a quelque chose de très flou aussi dans l'Antiquité.
Mais pour autant, il y a plein de, comment dire, alors pas des rituels forcément, mais en tout cas des passages, avec notamment un âge qui m'a paru très jeune. Déjà, on disait 12-14 ans. Alors qu'est-ce que c'est 12-14 ans finalement?
Alors là, c'est Festus, qui est un grammairien romain du 2e siècle, qui va finalement essayer de définir ce qu'on appelle pubère. Et il appelle pubère, nous dit-il, les garçons et les jeunes filles qui sont capables d'engendrer. Et donc là, finalement, il est obligé de donner des âges qui sont finalement les âges légaux du mariage, que sont 12 ans et 14 ans.
Donc 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons.
Alors,
ça nous paraît vraiment très jeune. On va voir après que finalement, ils se mariaient quand même pas si jeunes que
non,
ça.
Enfin,
il y avait tout un tas d'interdits finalement, pas très éloignés de notre vision à nous. Quoi. On va parler justement d'abord de la puberté physiologique qui était quand même très observée. On va commencer par les filles pour une fois. Qu'est-ce qui se passait pour les filles?
Alors pour les filles, alors très longtemps les chercheurs ont pensé que finalement il n'y avait aucun examen qui était pratiqué pour vérifier la nubilité des jeunes filles. Et dans mes recherches, j'ai essayé finalement de trouver des éléments qui pourraient au contraire faire penser qu'un examen gynécologique était réellement pratiqué. Le mariage, c'est vraiment institué pour faire des enfants. Et donc forcément, on n'allait pas aller marier une jeune fille dont on savait finalement qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et donc je pense en tout cas à la lecture des sources, qu'au moins les riches familles faisaient pratiquer des examens gynécologiques par des médecins. Et ça, on le sait notamment grâce à Soranos d'Éphèse, Rufus d'Éphèse, qui sont des médecins grecs, mais qui pratiquent la médecine à Rome, et qui nous donnent en fait plein d'indices, plein de fiches techniques finalement du corps de la femme apte à engendrer.
Et alors c'est quoi?
Alors il y a plusieurs éléments. Premier élément, ça va être vérifier si la jeune fille a ses règles. La poitrine également, qui est le premier signe, on va dire, visible. Et les médecins vont corréler les deux. À partir du moment, nous dit-on, que la jeune fille a une poitrine haute de 2 doigts, donc on voit qu'il y a déjà un examen qui se fait par rapport à une sorte de système métrique qui se fait. À partir du moment où cette poitrine gonfle de 2 doigts, on considère qu'elle a ses règles. Ensuite, on va vérifier aussi son appareil génital par des touchers vaginaux pour observer la longueur du col, etc. Et on va regarder également la qualité du sang menstruel. Alors la quantité d'abord, mais aussi la couleur. Et donc là, on a toute une échelle finalement de couleurs plus ou moins positive en tout cas pour engendrer.
Mais il y avait un recueil aussi du premier sang menstruel, il y avait quelque chose autour de ce premier sang?
Alors oui, donc il y a déjà la première toge qui va être, on va dire, souillée par ce premier sang, qui allait être offerte aux divinités protectrices des jeunes filles. Ça peut être Vénus, mais ça peut être aussi des dieux protecteurs de la maison, les Lares, les Pénates. La fortune virginale également, et plein d'autres déesses qu'on va choisir finalement en fonction de ces des attirances personnelles. Et on a aussi des choses très drôles qu'on va lire chez Pline l'Ancien notamment, qui nous indique que le premier sang virginal va servir pour éloigner les insectes nuisibles des cultures, etc., etc.
Alors c'est là qu'on peut citer aussi, parce que derrière quand même tous ces examens physiologiques, il y a aussi quand même une vision esthétique de la femme romaine, hein, et puis une vision même tout court, c'est-à-dire, enfin c'est Pline l'Ancien, je pense, hein, c'est ça,
oui,
qui,
c'est ça.
Qui dit, une femme, alors je ne vais pas tout citer parce que c'est tellement long comme liste, une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche, en les touchant frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins, le fruit de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombe, son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire, les abeilles meurent dans leur ruche, la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer, et une odeur fétide s'en exhale, les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Enfin bref, il y en a d'autres. Hein.
Tout à fait, la liste est très très longue, et en plus Pline l'Ancien, il à multiples endroits de son œuvre, il va justement distiller des informations sur ce fameux sang très dangereux que perd la femme. Et une autre chose aussi qui est assez drôle, enfin drôle, pas forcément drôle, mais étonnante du moins, c'est qu'on prête à la femme qui a ses règles un pouvoir abortif. C'est-à-dire que si une femme est enceinte, il ne faut absolument pas qu'elle croise une autre femme qui a ses règles, parce que du simple regard, elle pourrait en fait lui ôter son enfant.
Donc c'est à la fois le sang menstruel, à la fois des vertus, et puis en même temps c'est un poison.
Poison, et ça a aussi des vertus, puisque ça rentre aussi dans la composition de certaines maladies. Notamment, ça va être bon pour guérir quelqu'un qui va être empoisonné. Le sang est tellement fort que finalement, il va tuer n'importe quel poison, le venin de serpent, etc.
Et indépendamment donc de la question des règles, on façonne déjà un peu les femmes en fonction des critères esthétiques romains, c'est ça ? Notamment sur la poitrine ou...
Alors, c'est, dès l'enfance, en fait, j'en avais parlé dernière fois, on va justement faire en sorte que la poitrine soit très petite, les hanches plus développées, etc. Et ce qui compte vraiment à cette période adolescente, ou du moins du corps en mutation, c'est d'éviter tout caractère viril. Alors c'est assez étonnant d'entendre ça, c'est-à-dire qu'en gros, la femme a des humeurs qui rendent son caractère chaud, alors que l'homme est froid. Et donc on va exhorter la jeune fille justement à pratiquer énormément d'exercices physiques.
Oui, c'est vrai, c'est étonnant ça par rapport à d'autres cultures. Hein.
Tout à fait. Elle va devoir faire de la course. Alors on nous dit aussi, à la manière des Spartiates, elles vont devoir se rouler dans la poussière.
Ah
etc.
Oui, mais pourquoi se rouler dans la poussière ?
Alors parce que finalement c'est quelque chose qui va, comment dirais-je, être fatigant. Elle va devoir se. En fait, c'est un peu comme des combats dans la poussière, des sortes de luttes, mais féminine.
Pour entretenir la chaleur, toujours.
Tout à fait. Beaucoup de promenades. Alors, pas des promenades douces, hein, des promenades assez actives. On va leur demander également de pratiquer des chœurs, alors de la chanson, parce que justement, eh ben, ça donne chaud, ça essouffle. Et en quelque sorte, ça entretient le bouillonnement de la femme. Alors que l'homme, lui, au contraire, a un caractère froid. Et donc, de cette manière-là, finalement, on va essayer de rendre ce corps toujours de plus en plus chaud pour qu'il soit apte à recevoir en fait la semence et d'engendrer finalement un enfant.
Et alors passons à la physiologie masculine justement, puisqu'on l'a évoqué. Alors là, c'est plus codifié l'examen de, en tout cas c'est plus rapporté par les sources sans doute, l'examen du jeune homme, et c'est une affaire de père.
Oui, tout à fait. Alors c'est plus rapporté par les hommes aussi parce qu'ils vont se livrer sur l'examen qu'ils ont pu recevoir. On n'a pas d'écrit féminin, donc finalement c'est pour ça aussi.
Elles n'ont pas raconté ce que elles avaient vécu.
En tout cas, c'est pas parvenu jusqu'à nous. Le récit le plus complet qu'on possède, c'est Augustin, Saint Augustin, qui nous dit que lors de sa 16e année, il était au bain avec son père, donc au terme en fait, et il était nu avec son père, et son père a pu observer sa puberté. Alors, qu'est-ce que c'est que observer cette puberté d'Augustin ? C'est le premier signe pour les garçons, c'est la pilosité. Et donc là, la pilosité de son pubis.
Mmh. Oui, parce que la barbe, ce n'est pas un critère assez, assez clair et net, en fait.
Non, parce que c'est plus tardif. En gros, il va y avoir une graduation dans la pilosité. En premier lieu, ça va être le pubis. Puis, ça va être la barbe, les joues et les aisselles. Et donc, c'est en observant en premier lieu le pubis, c'est par exemple, on a Pline l'Ancien qui nous dit que les hommes et les femmes, hein, pour le coup, qui n'ont pas de poils au pubis, sont infertiles. Et à l'inverse, ceux qui ont beaucoup, beaucoup de poils, notamment les hommes, ça dénote un caractère libidineux, une virilité excessive, pour le coup, qui n'est pas bonne non plus. Ce qui prévaut, c'est vraiment le juste milieu.
Oui, puis pour les femmes, quand même, les poils ne sont pas très valorisés. Enfin, on recommande quand même l'épilation pour les femmes, déjà.
Oui, alors là, c'est assez drôle parce que autant on va avoir des sources pour les hommes, essentiellement grecques d'ailleurs, c'est plus les Grecs qui vont nous parler de ça. Les Romains sont beaucoup plus pudiques et donc ont moins livré des détails de ce genre. Par contre, on a Ovide, qui est donc un poète latin du 1er siècle, qui lui va écrire L'Art d'aimer, qui est en fait un grand poème où il va nous donner des trucs et des astuces pour draguer à Rome. Et donc son truc, à un moment, dans un passage, il nous dit que les femmes doivent ne pas avoir les aisselles qui sentent et ne pas avoir des jambes hérissées de poils. Et finalement, il conclut en disant « mais toutes les Romaines savent ça, et donc finalement, oui, c'est peut-être pas la peine de le dire ».
Alors que, enfin, il y a aussi des sources donc qui mentionnent les autres, on va dire les affres de l'adolescence, du point de vue notamment les odeurs corporelles. Un adolescent, ça sent le bouc.
Ouais, c'est ça.
Ça n'a pas changé. Et donc, là aussi, la question des boutons qui est mentionnée, c'est ça ?
Alors, il y a les boutons, effectivement. Alors là, c'est les médecins. Alors, ils ne nous parlent pas vraiment du bouton adolescent, mais ils nous donnent des remèdes pour essayer d'assécher les boutons. Et donc, ces remèdes, ça va être de placer du sel, par exemple, du vin, des huiles, pour oindre ces boutons. Et ensuite, il va devoir aller se faire suer dans le trépidarium au terme. Et donc, il va aussi falloir adapter l'alimentation, éviter tous les aliments âcres, trop gras. Il va devoir aussi pratiquer une activité sportive, en fait, pour faire transpirer également et sortir finalement toutes les humeurs de ses boutons. Et donc, on a plein de recettes comme ça qui nous laissent penser finalement qu'il y avait un réel souci de soigner les peaux adolescentes.
Donc là, on évoquait l'adolescence, on va dire, physiologique. Oui. On a dit à peu près ce qu'il fallait dire. Enfin, est-ce qu'il y avait d'autres rites de passage à signaler, plus d'ordre physiologique? Il n'y avait pas de circoncision, par exemple, chez les Romains?
Il n'y a pas de circoncision. Par contre, il y a une autre chose qui est importante pour les Romains, c'est la mue de la voix, pour les garçons essentiellement. Et quand on parlait de bouc, justement, il y a un terme il y a deux termes. C'est soit galou lacéré, qui vient de galous, le coq. Donc c'est la voix finalement qui oscille entre des sons très aigus et très graves, un peu comme le cri du coq.
Exact, qui n'est pas stable.
Non, voilà, c'est ça. Et on a aussi irkilitare, qui vient de hircus, le bouc. Et donc là, on a à la fois l'odeur du bouc, la pilosité du bouc, les penchants des jeunes garçons adolescents pour le sexe, ou l'attrait en tout cas pour le sexe. Et on a aussi, ça signifie aussi la mue de la voix, parce que comme le bouc, on a ce bêlement finalement du garçon qui a la voix instable en fait.
D'accord. Donc après la physiologie, il y a aussi la puberté sociale, on peut dire ça. Enfin là, oui, c'est ça. Et là, ça se caractérise par les tenues vestimentaires. Alors c'est plus simple pour les garçons que pour les filles, j'ai l'impression. C'est ça
Oui. Alors en fait, on va peut-être commencer par les filles parce que.
Allons-y.
En fait, les jeunes. Donc déjà pour faire simple, tous les enfants portent une tenue spécifique. En tout cas, les enfants de citoyens vont porter une toge qu'on appelle prétexte parce qu'elle a une bande de pourpre qui est cousue en fait sur le rebord du vêtement. Et cette toge prétexte, elle va permettre d'identifier d'un seul coup d'œil les enfants de la haute société et ainsi les préserver de toutes les offenses. Alors c'est très dans l'air du temps finalement puisqu'on en reparle beaucoup, mais ça va les préserver notamment de la pédocriminalité.
Parce que l'enfant est sacré. Et d'ailleurs, les enfants ne sont pas les seuls à porter les toges prétextes. Il y a aussi notamment les magistrats.
Les magistrats et les prêtres aussi, puisque ça leur confère en fait une valeur sacrée. C'est une couleur, la couleur pourpre, qui plaît aux dieux et qui va leur offrir finalement une aura protectrice.
Et elle ressemble à quoi en gros cette toge prétexte?
Alors c'est une toge comme la toge adulte que vous avez en tête, mis à part qu'elle a une bande de pourpre sur le côté.
Une sorte de cape qu'on met en vêtements.
Cape, enfin, c'est vraiment comme un ourlet, en fait, de couleur rouge pourpre.
Mais sinon, la toge elle-même, c'est quoi? C'est une sorte de poncho? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait décrire ça?
Alors,
pour ça les
serait gens une sorte de drap qu'on va agencer sur le corps avec un bras qui va être recouvert et un bras laissé libre. Et finalement, c'est un vêtement qui est très contraignant parce qu'il y a toujours le risque qu'il glisse, qu'on marche dessus, c'est très long, c'est très incommode. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, c'est un vêtement qui est très vite abandonné, qui est plus un vêtement de cérémonie qu'on va porter pour les grandes occasions. Et dans la vie de tous les jours, on va préférer une tunique qui, elle, est cousue. Pour laquelle il n'y a pas de risque finalement qu'elle laisse voir les parties intimes ou qu'elle permette finalement une plus grande commodité de mouvement, etc.
Et alors, une des questions, c'est la toche prétexte est-elle unisexe ?
Alors, elle est unisexe dans les premiers temps de Rome. Et ce dont on s'aperçoit finalement, c'est que les jeunes filles, alors les petites filles vont porter une toche prétexte jusqu'à environ l'âge de 10-12 ans. Et après cela, on va avoir des tenues qui sont plus des tenues à l'imitation des femmes, avec des tissus beaucoup plus légers, des couleurs, des soies, des bijoux également. Et donc finalement, on a des tenues qui vont appeler la séduction également.
Elles sont déjà en mode prénuptial, en fait, c'est ça.
En fait,
quoi.
C'est
très
aussi
tôt.
Séduire un éventuel prétendant. La toche prétexte, elle est tout sauf séduisante puisqu'elle cache complètement les formes du corps. Et donc, on a des tenues qui vont plus suggérer, en tout cas, la poitrine naissante, les hanches, etc.
Pour les filles, il y a d'ailleurs un sous-vêtement, un soutien-gorge, c'est ça enfin...
Oui, un premier soutien-gorge qu'on va appeler... Alors, il y a plusieurs termes, mais ça peut être le taenia ou le mamiliare. Mamiliare qui vient... des seins, en fait, qui va servir justement à couvrir la poitrine et qui aussi va être offert aux divinités lors du passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais ce passage féminin, c'est le mariage et normalement, on aura l'occasion d'en reparler lors d'une autre émission.
Exactement. Et donc, les hommes, en revanche, ils ont vraiment une cérémonie sociale de changement de vêtements, c'est ça, en fait.
Tout à fait.
Donc, ils quittent leur toge prétexte et ils revêtent la toge virile. C'est comme ça qu'on dit, c'est
alors,
ça.
Alors, il y a la toge. Il y a plusieurs termes, mais le plus commun, ça va être la toge virile ou la toge la toga libera, la toge de l'homme libre, qui est une toge blanche, qui est la toge du citoyen par excellence. Et donc là, vous avez toute une cérémonie qui va permettre d'abandonner cette toge prétexte de l'enfant pour revêtir la toge de l'adulte. Ça se passe en trois phases, entre guillemets. Le premier élément, ça va être d'abandonner tous les attributs qu'on avait quand on était enfant. Donc ça va être le vêtement, donc la toge prétexte, mais aussi les amulettes protectrices dont on a parlé lors de la première émission, essentiellement la boula, qui est l'insigne par excellence du jeune citoyen. Et donc, ces attributs-là, il va les offrir aux divinités domestiques qui ont protégé, en fait, l'enfant dans son foyer. Il va aussi donner ses jouets, tous les jouets avec lesquels il a joué quand il était enfant. Ça va être les noix, notamment, qui sont les ancêtres des billes. Vous avez plein de jeux qui se font avec des noix, ça peut être ça. Ça peut être aussi des petits chariots qui servaient finalement à mimer des chevaux ou autres. Donc vous avez plein de jouets comme ça qui vont être offerts aux divinités pour les remercier finalement de leur protection durant l'enfance.
Et quand ils sont offerts, ça veut dire qu'ils sont mis sur un autel ou qu'ils sont brûlés ou comment ça se passe ?
Alors soit c'est offert dans des sanctuaires de divinités, en offrande, soit c'est déposé dans le larère, qui est le petit sanctuaire domestique à l'intérieur de la maison romaine. Mais là, en fait, on a des problèmes, finalement, pour saisir véritablement ces dons, puisque, alors, quand c'est dans des sanctuaires, on a parfois connaissance de ces dépôts dans les restes archéologiques. Dans les larères, c'est beaucoup plus rare, parce que ça a disparu. C'est aussi un objet précieux, donc on pense qu'il peut être aussi offert aux enfants suivants. On peut penser aussi que c'est un objet qui se transmet de génération en génération. Et donc, on a peu, finalement, retrouvé de boulades dans des larères.
Et ce dépôt des jouets et des amulettes, c'est public ou c'est dans le cercle familial ou...
Alors, il y a une partie qui va se jouer dans le cercle familial, avec le père, les amis du père, la mère également qui est présente, mais qui, finalement, est assez tue dans les textes, bien qu'elle ait quand même un rôle... certains, les esclaves, donc toute la familia romaine qui constitue en fait le cercle très proche de l'enfant. Et une fois qu'il a abandonné ses insignes, il va aller se présenter finalement à la communauté. Et donc là, vous avez toute une procession, entre guillemets, qui va s'effectuer du domicile de l'enfant au forum, qui est le lieu où se passent finalement toutes les activités économiques, politiques, où il va être présenté à ses pairs, finalement. Et ensuite, il va aller au Capitole, qui est l'endroit où il y a le sanctuaire de la triade capitoline, donc les trois dieux les plus importants de la communauté, où il va offrir son premier sacrifice. Et ensuite, il va retourner sur le forum, après s'être fait inscrire sur le registre des citoyens. Et là, il va offrir, ça va être l'objet de cadeaux, de libéralité. Et finalement, plus la famille est riche, plus les cadeaux vont être importants. Il va pouvoir y avoir des sacrifices où chaque membre de la communauté va pouvoir recevoir une part de viande, etc.
Et cette cérémonie-là, donc pour les garçons uniquement, elle est à quel âge ? Enfin, en fait, ça peut être très variable, quoi, c'est
Alors,
ça ?
C'est très variable. On va dire que les premières... En fait, on a longtemps pensé que c'était en fonction de la puberté. C'est-à-dire que dès que vous étiez pubère, vous pouviez, physiologiquement, vous pouviez accéder finalement à l'âge adulte. Dans les faits, on se rend compte que finalement, c'est quelque chose qui va être plus en lien avec les aspirations, notamment politiques.
Oui, c'est intéressant ce qui se passe pour les empereurs. Justement, il y a des cas de figure différents.
Alors, les empereurs, vous avez vraiment, par exemple, Caracalla qui va revêtir sa toge à 13 ans et Caligula qui, lui, va la revêtir à 19 ans. Donc, on voit que là, il y a un fossé entre les deux.
Selon si leur père voulait qu'il accède vite au pouvoir ou pas, en fait.
Tout à fait. Et donc, finalement, ça va dépendre aussi des volontés dynastiques. Pour le commun des citoyens, on va dire que ça s'effectue généralement vers... Quand on prend, en fait, tous les âges mentionnés, on va dire que la moyenne, c'est 14 ans.
Et donc, pour les femmes, il n'y avait pas de cérémonie officielle en dehors du mariage, donc pour marquer une puberté sociale, enfin, un passage à l'âge adulte social, quoi.
Alors, le passage à l'âge social, c'est le mariage. Par contre, la puberté physiologique, un passage à la puberté physiologique, c'est offrir sa toge souillée, en fait, à des divinités. Mais là, c'est très dur parce qu'on a peu de sources qui, nous permettent d'assurer cela. On ne sait pas exactement à qui aller ce don. Ça dépend vraiment de chaque famille. Et finalement, on a très peu de sources qui permettent de nous renseigner là-dessus.
Donc c'est ça en fait, on a, quand on résume le passage à l'âge adulte à la romaine, donc on a ces manifestations, ces passages physiologiques, ces manifestations sociales. Il y a autre chose encore qui marque l'adolescence
Pas vrai. Alors l'adolescence, pas vraiment, mais par contre le passage de l'enfance à l'âge adulte, en fait on a déjà des âges qui fluctuent hein, selon les individus. Mais une fois qu'en fait le jeune garçon a revêtu sa toge, il y a une autre cérémonie alors, qui a lieu soit le même jour, soit à une autre date, ça dépend en fait des individus, qui est celle d'offrir sa barbe, la coupe de la première barbe, à d'autres divinités. Donc à la fortune barbue, qui a un nom un peu bizarre, on ne sait pas exactement de quelle divinité il s'agit, ou à Jupiter, ou à Juventas, qui est la divinité protectrice de la jeunesse. Et donc là, en fait, on a une cérémonie aussi qui va s'effectuer. On a des barbiers qui vont être payés, alors essentiellement pour les riches familles, hein, pour tondre la première barbe à ces jeunes gens, qui va se faire en public. Ensuite, on va placer cette petite barbe dans un coffret, et elle va être offerte en fait, à différentes divinités. Et vous avez ça, et vous avez une autre coutume, mais qui est beaucoup moins connue, qui est évoquée notamment par Juvénal, qui est un poète satiriste. Donc il faut faire assez attention à ce qu'il dit, parce que souvent c'est pour se moquer. Mais il nous parle d'un arbre qu'on appelle l'arbor capillaris, qui serait un arbre où pendent de longues mèches de cheveux. Et il s'agirait finalement de la première coupe de cheveux du jeune garçon qui est offerte, là encore, aux divinités. Alors, en fait, il faut savoir que les jeunes garçons, la coupe de cheveux des jeunes garçons, c'est des cheveux longs. Et donc, finalement, il est parfois difficile d'identifier les garçons et les filles. Et donc, quand il devient un homme, on lui coupe les cheveux courts pour finalement aussi signifier ce passage.
Alors que les filles, elles vont garder des coiffures très... qu'elles ont depuis bien avant même leur puberté, des coiffures très féminines, c'est ça
Alors oui, la seule différence, c'est que les petites filles vont souvent avoir les cheveux soit lâchés sur le dos, ce qui est très mauvais genre pour une femme mariée. La femme mariée va, elle, avoir les cheveux attachés, bien serrés, avec un voile sur la tête quand elle sort à l'extérieur. Alors que la petite fille, finalement, il y a beaucoup de liberté dans sa coiffure. Elle va pouvoir avoir les cheveux lâchés, tressés, On a une coiffure qu'on va retrouver beaucoup au premier ciel, qui est la coiffure qu'on appelle en côte de melon, qui est un petit chignon haut sur le sommet de la tête, avec des tresses en fait qui vont être agencées sur tout le pourtour de la tête.
Bon, de toute façon, on reparlera des coiffures de mariage, notamment, lors de la prochaine émission. Bon, là, je pense qu'on a balayé l'adolescence, qui ne s'appelait pas l'adolescence du temps de l'Antiquité romaine. Merci, Pauline Huon.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.